RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'entendez ce matin, on parle des apparitions. Je vous propose jusqu'à 11h d'évoquer les sanctuaires Mario qui sont des lieux de pèlerinage, hein, vous l'avez compris, dédiés à la Vierge Marie. Ils sont souvent situés d'ailleurs à des endroits où des apparitions, des événements miraculeux auraient eu lieu, ou bien là où des personnes ont ressenti peut-être une présence particulière. On va en discuter jusqu'à 11h avec nos invités et on va surtout vous présenter des lieux qui sont connus. Si je vous parle de la rue du Bac, je pense que vous connaissez cette expression, la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse à Paris, ou encore Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez l'habitude de fréquenter les sanctuaires Mario, venez témoigner, nous dire lesquels et puis pourquoi vous y allez, qu'est-ce que vous ressentez. On vous attend 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Je commence avec vous, Père Alexis et Cerquera. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Comment ça va?
Ben, ça va très bien. Et vous?
Tout va bien, merci beaucoup, c'est très gentil.
Eh ben c'est parfait, merci beaucoup Père d'être avec nous. Vous êtes chapelain recteur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, c'est à Paris, qu'on connaît plus, c'est vrai, avec l'expression la rue du Bac. Hein. Vous êtes chapelain recteur depuis 2018. Vous allez nous présenter ce lieu qui est très connu, notamment en France, par des pèlerins. Avec nous également Père Michel Desplanches, bonjour.
Bonjour. Merci. Et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes depuis 2022. Alors présentez-nous ce lieu, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce sanctuaire qui est un haut lieu quand même de pèlerinage en France.
Ah, pas quand même, c'en est un, oui, oui, ça c'est sûr. En 1664, il y a 360 ans aujourd'hui, cette année, eh bien, ont eu lieu les premières apparitions dans ce lieu de montagne, proche de Gap, où la Vierge Marie est apparue à une bergère de la vallée. Et cette bergère a été favorisée de ces apparitions, et de bien d'autres apparitions d'ailleurs, pendant 54 ans, c'est-à-dire toute sa vie, de 17 ans jusqu'à 71 ans. Et donc, pendant toute sa vie, elle a accueilli ici les pèlerins, proches de cette petite chapelle de Bonne Rencontre, qui était une petite chapelle de montagne. Oui. Et Benoît a reçu l'ordre de la Sainte Vierge de construire une église autour de cette petite chapelle et un lieu pour accueillir les pèlerins et les prêtres qui se sont succédés ici depuis 360 ans. Les apparitions ont été reconnues en 2008 seulement parce que personne n'avait fait la démarche officielle auprès du Vatican et ces apparitions sont donc bien reconnues par l'Église.
C'était Benoît Rancurel pour bien la nommer. C'était donc le début d'une longue relation à partir de mai 1964 d'après vous Michel Desplanches avec donc comme elle disait la mère de miséricorde.
Alors, ce n'est pas 1964, c'est 1664.
Oui, pardon, 1664.
C'est un petit peu plus ancien. Et donc, oui, eh bien, elle voit cette belle dame et cette belle dame lui arrive d'abord avec un sourire. Pendant 2 mois, les premières apparitions, qui sont quasi quotidiennes, sont simplement cette rencontre silencieuse et souriante qui va amener cette bergère petit à petit à s'affiner dans sa vie spirituelle. Elle qui est illettrée, analphabète, elle ne parle que le patois de sa vallée, eh bien, elle va avoir une finesse spirituelle et on lira dans les manuscrits que nous possédons encore aujourd'hui, qui sont quasiment le journal des apparitions pendant 54 ans, le journal du XVIIe siècle, eh bien, nous avons cet avis qui dit que Benoît devient plus fine que les plus habiles des confesseurs.
Eh ben merci beaucoup pour cette d'avoir posé le décor, Père Michel Desplanches. On va continuer bien sûr de découvrir Notre-Dame du Lot dans cette émission. Père Alexis Cerquera, alors pour parler de la rue du Bac, la chapelle de la médaille, chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse, c'est une certaine Catherine Labouré dont vous allez nous parler.
Oui, tout à fait. Pour comprendre la réalité de notre chapelle sanctuaire, il faut aller revisiter la vie de Catherine, qui est devenue sainte, canonisée par l'Église. L'apparition de notre sanctuaire n'est pas reconnue par l'Église, mais Sainte Catherine et la médaille miraculeuse, oui. Donc, quand on parle de la médaille miraculeuse, on parle bien sûr de ces petites médailles, mais il faut aller chercher la vocation de Catherine, qui naît en Bourgogne et qui se retrouve ici à Paris à l'âge de 24 ans pour faire une expérience très intéressante, l'expérience de vocation auprès des filles de la charité, de la compagnie des filles de la charité. Donc la rencontre qu'elle a eue avec Marie, c'était la première, bon, elle en a eu trois, donc Catherine en parlait. Donc la première, c'est la nuit du 18 au 19 juillet 1830, la deuxième, le 27 novembre de la même année, et une autre, donc Catherine n'en parle pas beaucoup, ça sera en décembre de cette même année. Donc la première rencontre, tout se déroule à la chapelle,
oui,
que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr transformée au fil du temps. Et donc la première, c'est une rencontre maternelle, si on peut dire ainsi, parce que Catherine avait perdu sa maman à l'âge de 9 ans. Et du coup, cette rencontre maternelle, Marie va lui montrer aussi la célébration de l'Eucharistie, parce que c'est mon premier moment. C'est Marie qui signale l'autel et qui dit « Venez au pied de cet autel où les grâces seront répandues ». Et la deuxième apparition, c'est le 27 novembre de la même année. Donc, Catherine va voir, lors d'un moment d'oraison et avec ses sœurs, c'est la seule à voir cette vision.
Oui.
Donc, elle aura la première partie de l'apparition, c'est Marie qui porte les globes et elle va entendre une voix qui va lui dire « Voici le monde entier et chaque personne en particulier ». Et par le site, elle aura la vision de la médaille et la voix qui va le demander de frapper cette médaille sur ses modèles. Donc, c'est en gros cette expérience d'une jeune femme,
oui,
qui se trouve dans une compagnie dédiée au service des pauvres. Et c'est par ce service que l'Église va la canoniser après. Mmh. Catherine va garder silence de cette apparition pendant à peu près 70 ans, juste avant son départ à la maison du Seigneur. Elle va parler, elle va réécrire pour la deuxième, troisième fois les récits de cette apparition. Mmh. Et savoir que Catherine, c'était une femme paysanne, elle a appris à écrire, à lire et écrire tardivement. Mais c'est une femme qui raconte aussi avec délicatesse les documents que nous gardons ici aux archives de la maison. Elle raconte avec délicatesse,
oui,
et beaucoup de détails tout ce qu'elle a vécu à ces rencontres.
Et Catherine Labouré sera canonisée d'ailleurs par le pape Pie XII, 70 ans après sa mort, c'était en 1947. On va continuer d'en parler. Père Michel Desplanches, vous, peut-être à titre personnel et puis bien sûr en tant qu'homme de foi, quel lien vous avez avec ce terme d'apparition mariale ? Parce que maintenant, bah voilà, depuis quelques années, vous êtes recteur de Notre-Dame du Lot. Quel sens ça a pour vous ?
Disons que ce sanctuaire est évidemment l'un des plus des lieux phares, des lieux spirituels phares pour toute notre province, toute la région PACA. Je connais ce lieu depuis ma jeunesse. On a l'habitude d'y venir en pèlerinage quand on habite la région. Si vous voulez, les apparitions ne sont pas un objet ce n'est pas comme le dogme, on n'est pas tenu d'y croire. Ce sont toujours des révélations privées, donc personne n'est obligé de croire aux apparitions comme on dit le credo. Hein. En revanche, l'Église reconnaît que ça peut être un signe du ciel pour nous aider justement à croire dans la foi de l'Église et à approfondir, à enraciner la foi de l'Église. C'est un moyen que le ciel nous donne pour nous permettre de vivre sérieusement notre baptême. Et vous, moi, ce qui me frappe ici, dans ce sanctuaire, c'est que Benoît laïque, Benoît qui n'avait fait que des vœux privés, Benoît laïque, Benoît qui est sans culture, sans moyens humains, aucun, Benoît va être toute sa vie au service de la croissance spirituelle des pèlerins qui monteront ici, de la perfection de la vie chrétienne. Et voyez-vous, si elle n'a pas été canonisée encore, mais nous l'espérons, cela viendra, c'est que certainement, bon, notre région étant assez, isolée, ça n'a pas favorisé les démarches officielles. Mmh. Il n'empêche que Benoît a comme inspiration et comme but dans toute sa vie d'amener les baptisés à vivre pleinement leur vocation de baptisé. Elle est au service
de la réconciliation,
de la croissance spirituelle, voilà. Mmh. Mais ça passe par le sacrement du pardon, voyez-vous. La Vierge Marie, lors de la première apparition au lot, dit à Benoît « J'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs. » C'est-à-dire que ce lieu est voulu pour la croissance spirituelle des pécheurs qui viennent ici, pour leur conversion.
Brigitte nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Brigitte.
Bonjour. Je suis heureuse d'entendre parler de sacrement de réconciliation et de ce désir de la Sainte Vierge de nous voir nous en approcher. Parce qu'à Medjugorje, comme au Laos, la Sainte Vierge a vraiment demandé que nous ayons cette contrition. Et vraiment, je voudrais témoigner du fait que le Seigneur, à Medjugorje, parle à travers la foi vécue. Parce que la foi, elle est vécue à travers les sacrements, à travers la messe qui est quotidienne et célébrée plusieurs fois par jour en différentes langues, croate, français, italien, à travers les temps de prière intenses. Donc pour moi, ça a boosté ma foi. Je n'avais jamais perdu la foi, mais vraiment, elle a été totalement renouvelée à Medjugorje, je peux le dire. Et je n'avais pas de prière personnelle avant de m'y rendre. Et après, ben voilà, progressivement, je me suis promis de prier personnellement devant le Saint-Sacrement autant que possible, un quart d'heure, une demi-heure, une heure par jour. Et voilà, merci Seigneur. Et ça a permis la conversion de certaines personnes de ma famille.
Quand vous êtes allée, Brigitte, rue du Bac, à la rue du
non,
Bac.
Non, je parle de Medjugorje.
Ah oui, pardon, je me suis trompée dans les témoignages.
J'ai entendu parler de Medjugorje à la fin des années 80 et je me suis dit, si vraiment la Sainte Vierge se manifeste, moi j'y vais. Et à l'époque, il y avait très très peu de pèlerins, il n'y avait pas d'hôtel, on était chez l'habitant. Et je peux vous dire que vraiment, il y avait un recueillement impressionnant, vraiment. J'ai trouvé là-bas une foi vivante qui a renouveler la mienne, comme je disais.
Voilà. Merci beaucoup, Brigitte, pour votre appel et nous avoir parlé des apparitions mariales de Medjugorje, qui donc c'est en Bosnie-Herzégovine, hein, je précise pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Père Alexis Cerchiara, on se rend compte quand même à quel point une visite, peut-être par curiosité ou vraiment par conviction, peut vraiment bouleverser. Est-ce que c'est le cas à rue du Bac?
Oui, assez souvent. Nous savons à peu près par an, la visite des 3 millions de personnes à Paris. Nous sommes le troisième lieu, si on peut dire ainsi, le plus visité de la capitale. Et venant de tous les horizons, les gens partagent aussi leur témoignage et disent qu'ils rencontrent un lieu où ils ressentent une présence autre, qu'ils ressentent qu'il y a la paix, les silences, l'invitation à la prière, que les gens s'approchent du sacrement de l'Eucharistie d'une manière paisible, et qui reçoivent des grâces diverses et variées. Je peux témoigner aussi de plusieurs personnes qui, en quittant la chapelle, partent parfois en larmes parce qu'ils rencontrent vraiment la paix, et une relation très, très sensible à la Mère du Ciel qui nous conduit vers le Christ. Et là, les gens se sont vraiment... Ils sentent qu'ici, c'est un lieu très particulier. Je peux témoigner aussi d'une manière personnelle que vraiment nous sommes dans un lieu habité par une présence et les gens le ressentent beaucoup. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes racontent des guérisons, racontent des moments où ils se sont angoissés, qui retrouvent la paix. J'en ai plusieurs personnes qui m'en parlent assez souvent et qui viennent justement chercher une réponse, un espace qui leur est favorable à la recherche qu'ils font. Alors, et qu'en partant avec la petite médaille, bon, ils disent beaucoup de choses.
Alors non, mais c'est intéressant parce que vous évoquiez à l'instant les guérisons, en tout cas les miracles, d'où le nom d'ailleurs Notre-Dame de la médaille miraculeuse. C'est notamment lors d'une épidémie de choléra à Paris qu'il s'est passé quelque chose, Alexis Cerqueira.
Oui, tout à fait. Parce que bon, au départ, Catherine était accompagnée par le père Aladel, un lazariste. Moi-même, je suis lazariste.
Oui.
Et dans ce processus de discernement vis-à-vis des apparitions, des cadeaux qu'elle a reçus, la médaille s'est fait frapper 12 ans après par l'approbation de Monseigneur de Quesnel. Et à ce moment-là, la ville de Paris est attaquée par le virus de choléra. Et les gens commencent à témoigner aussi qu'ils avaient reçu la protection de la Vierge Marie. Et c'est le peuple même qui l'appelle miraculeuse. Marie ne se présente pas comme telle. Elle demande simplement de frapper la médaille sur le modèle que Catherine nous a transmis et qui s'approche beaucoup des dogmes de l'Immaculée Conception. Et par la suite, les gens ressentent que par cette médaille, bon, la protection maternelle, un lieu d'écoute, un espace, etc. Et les gens, c'est pour cela qu'ils trouvent la guérison vis-à-vis de cette maladie qu'à l'époque ravageait Paris.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'évêque, à l'époque, va accorder aux Sœurs de la Charité le droit, justement, d'organiser cette distribution de médailles. Et c'est là où ça a pris une ampleur assez impressionnante à l'époque. Ghislaine nous a rejoint. Bonjour. Ghislaine, est-ce que vous êtes avec nous?
Eh oui, j'ai allumé l'ordinateur entre-temps parce que j'étais dans ma voiture tout à l'heure.
Oui.
J'ai allumé l'ordinateur pour vous donner des informations sur Notre-Dame de Verdelet.
Eh ben, on vous écoute.
Le lieu de pèlerinage, voilà.
Eh ben, on vous écoute, Ghislaine, rapidement.
Alors, voilà. Ce lieu de pèlerinage, il se trouve, quand vous arrivez à Verdelet, la première arrivée est sur la place de l'allée de l'église, 33-490, Verdelet.
Oui.
Vous tombez pile à Verdelet. Voilà. Alors, c'est un lieu de pèlerinage depuis 900 ans d'histoire. Je sais ça parce que j'ai ouvert l'ordinateur.
Oui, je me suis dit que l'adresse, sinon, vous ne la connaissez pas forcément par cœur.
Voilà.
Et c'est
voilà.
Un lieu, vous avez eu l'occasion de vous y rendre, vous?
Ah, plusieurs fois, ouais. Oui, parce que ça fait 43 ans que j'habite Comblane. J'y vais au moins une fois par an, plutôt 2-3 fois, mais une fois par an, au moins, je m'y tiens.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Ghislaine, de nous avoir parlé de Notre-Dame de Verdelet. Donc, c'est en Gironde. Je crois que vous connaissez bien Père Michel Desplanches.
Écoutez, j'y suis passé, bien sûr. Je suis passé prier à Verdelet, qui est un très très joli sanctuaire, qui a vécu, je pense, depuis de plusieurs mutations. Mais la France est parcourue de ces lieux
oui.
qui sont autant de foyers d'évangélisation, d'approfondissement spirituel et d'expérience de la rencontre avec le Seigneur, donc de conversion. Et si vous voulez, je pense que ce maillage de sanctuaires, ministère que j'ai découvert, moi j'étais vicaire général dans le diocèse d'Aix-en-Provence jusqu'en 22, et c'est vrai que en découvrant ce ministère dans les sanctuaires, je me dis que il y a là un réseau d'évangélisation, de conversion, de renouveau de la vie sacramentelle, qui, dans le cadre de l'évangélisation et d'une nouvelle évangélisation, peut être, à mon avis, une source de dynamisme, de créativité et de joie.
Ouais. Est-ce qu'il y a, alors ma question va être un peu bizarre, hein, je vous préviens d'avance, Père Michel Desplanches, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les apparitions? Parce que là, dans la première partie de l'émission, on parlait de Lourdes, avec l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubérousse. Ce matin, on évoque aussi la rue du Bac à Paris, Notre-Dame du Lot. Vous, quelle est votre position? Est-ce qu'il y a des apparitions qui sont plus impressionnante que d'autres, ou finalement on se pose pas vraiment cette question, ça tient du mystère.
Vous savez, les lieux d'apparition sont toujours des lieux très porteurs. Et les pèlerins sont très sensibles à l'atmosphère d'un lieu. Hein. Il est certain que Lourdes, avec ses grands rassemblements, ses immenses processions, a quelque chose de très spectaculaire et très frappant d'expérience de l'Église universelle. Quand vous arrivez à Notre-Dame-du-Lot, évidemment, c'est tout autre chose. On est dans un sanctuaire qui rassemble 200 000 pèlerins par an et qui permet de goûter dans un cadre de montagne, là aussi, mais une expérience très différente de proximité, d'accompagnement des personnes ou des groupes, de rencontres fraternelles, de formation et aussi, bien sûr, de vie liturgique et spirituelle. Donc, si vous voulez, chaque sanctuaire a un peu son caractère, son charisme, ça. Même si chacun a pour but la conversion, chacun a sa personnalité. Et jamais le sanctuaire du Lot ne se dit « il faut qu'on devienne comme Lourdes ». On n'est pas dans cette logique-là. Mais que chaque sanctuaire est appelé à développer justement ce charisme propre du lieu, du message et des témoins des apparitions, quand il y a eu des apparitions, ou du message du sanctuaire qui a été porté par les siècles.
Nous avons une auditrice en ligne qui s'appelle Mireille. Vous êtes à Caen. Bonjour Mireille.
Bonjour. Oui, je vous appelle parce que notre surprise a été à mon mari et à moi d'une carmélite qui sortait du terminal au Havre à l'époque où nous étions.
Pardon, si vous pouvez couper votre radio derrière, s'il vous plaît, Mireille, parce qu'il y a un écho qui n'est pas très agréable à entendre.
Une petite seconde, je me lève du fauteuil pour aller.
Je vous en prie. Et ça me laisse le temps de vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 04 72 38 20 23 pour participer à cette émission, pour nous parler de sanctuaire marial que vous connaissez. Qu'est-ce que ça vous évoque? En quoi c'est marquant pour vous? Vous pouvez également témoigner à l'adresse direct@rcf.fr. Mireille, c'est à vous.
Voilà. J'éteins.
Ah vous l'avez pas coupé, là?
Si, ça y est.
Allez, on vous écoute.
Ça y est. Oui, alors la surprise, c'est de la part d'une carmélite qui sortait du terminal pour se rendre du terminal du 1 pour se rendre à Lisieux. Nous l'avions véhiculée et en route, elle nous parle de Dozulé en nous disant qu'il y avait des cars entiers qui venaient d'Irlande pour les apparitions de la Vierge à Dozulé dans la Calvados. Alors nous n'en avions jamais entendu parler. Moi-même, je suis née à Mayenne. Mes parents sont nés dans l'Orne et nous connaissons en principe ce qui se passe autour de nous. Et jamais, jamais, nous n'avions entendu parler de Dozulé. Alors, je pose la question. Nous avions vu un prêtre sur place, à Dozulé, et qui dénonçait ce qui était dit par rapport aux apparitions. Mais alors, pourquoi des cars entiers se déplacent d'Irlande pour les apparitions de Dozulé?
Écoutez, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Mireille, d'être venue à l'antenne pour en parler. De ce que je lis, moi, c'est que ça n'a jamais été reconnu par l'Église. C'est le cas, d'ailleurs, Pierre-Michel Desplanches, de nombreux lieux, peut-être, qui ont connu une certaine réputation, comme la rue du Bac. La rue du Bac, on est encore sur un autre niveau, mais avec des choses qui ne sont pas reconnues par l'Église, mais quand même, il y a quand même un phénomène.
Vous savez, il faut voir le message que porte le sanctuaire, ou les messagers d'ailleurs, les personnes qui ont bénéficié d'apparitions ou de révélations privées. C'est le message. Est-ce que ce message correspond à la foi de l'Église ou pas? Et c'est là où l'Église se prononce quand elle est sollicitée. Hein. L'expérience de la médaille miraculeuse est puissante et de millions de d'hommes et de femmes à travers le monde portent cette médaille et se confient à la Vierge Marie dans la foi de l'Église. Il n'y a pas besoin de d'un acte officiel. Ici à Notre-Dame-du-Lot, ça a permis de faire connaître le message. Quand le message était avalisé par l'Église, évidemment, ça a permis une diffusion du message qui était pas forcément très très connu auparavant. Mais là, dernièrement, le pape s'est exprimé sur les reconnaissances officielles qui ne seront plus, à ce que j'ai compris, qui ne seront plus prises en compte par Rome. D'une manière, enfin comme ça l'était jusqu'à présent. Il n'empêche que c'est quand même, comment dire, une garantie de sérieux pour un approfondissement spirituel que d'avoir la reconnaissance officielle de l'Église.
C'est ça qui est assez paradoxal, puisque ça n'a pas été reconnu officiellement par l'Église, en tout cas pour la rue du Bac, Père Alexis Cerchiara. Et pourtant, le pape Jean-Paul II, en 1980, s'y est rendu alors qu'il était en visite à Paris.
Nous avons ce témoignage de Jean-Paul II qui est venu rendre hommage à la Vierge Marie. Et après, plusieurs évêques viennent ici présider l'Eucharistie. Et c'est vrai que nous n'avons pas cet aval, entre guillemets, du Vatican, mais le fait que la médaille compte aussi sur l'appréciation des uns et des autres, surtout de pèlerins, et aussi la canonisation de Catherine. C'est vrai que Catherine n'est pas canonisée. Parce qu'elle a vu la Vierge Marie, parce qu'elle a eu ses rencontres de grâce, c'est parce qu'elle était au service des plus pauvres, parce qu'elle a répondu à cet appel de Dieu par les charismes vincentiens avec Vincent de Paul et Louise de Marillac, et qu'elle a grandi dans cette expérience de charité, de dons au service des plus pauvres. Mais les grâces qu'elle a reçues par rapport à la Vierge Marie, et bien sûr, c'est se rend visible par la médaille, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'approche fort du dogme de l'Immaculée Conception. Parce qu'elle a eu cette étape de discernement avec le Père Aladel et dans le silence de la prière avec ses consoeurs et à la fin de sa vie avec la supérieure générale des filles de la charité qui lui demande de s'identifier, enfin dire que c'est elle qui avait reçu cette grâce de la médaille miraculeuse. Je pense que c'est le peuple même, c'est l'Église elle-même que d'une manière ou d'une autre donne son approbation, parce que, comme disait le Père Michel tout à l'heure, le message des apparitions correspond bien à l'enseignement de l'Église et qui ne sont pas en dehors d'une certaine capacité de discernement.
Comment
que l'Église reste plus prudente vis-à-vis de ça.
Comment on devient chapelain recteur de la rue du Bac, Père Alexis Cerchiara, en quelques mots, parce qu'on va devoir marquer une petite pause.
Comment je le suis devenu, mais bon, je suis prêtre lazariste,
oui,
et colombien d'origine, et j'étais missionnaire à Amiens pendant une dizaine d'années, et c'est après c'est mes confrères qui ont proposé mon nom à l'évêque de Paris, à l'archevêque de Paris, qui donne son approbation. Et aussi avec les filles de la supérieure générale des filles de la charité. Bon, on le devient par grâce. De toute façon, c'est le Seigneur qui appelle, qui m'a placé ici pour continuer ma mission de lazariste au service du peuple de Dieu en tant que prêtre et au service des plus petits en tant que lazariste. Et je crois que c'est par la grâce de Dieu, certainement. Je n'ai pas de mérite autre que d'être au service de l'Église, et surtout d'aimer la Vierge Marie, parce que c'est elle qui m'accompagne depuis toujours. Et je crois qu'au service des pèlerins, des filles de la charité, de mes confrères lazaristes, c'est ça, c'est tout simple, je crois.
Par la grâce.
Aucun mérite de plus que d'être au service de l'Église.
Voilà, et par la grâce de Dieu, comme vous l'avez dit, comme si vous avez été appelé. Il est presque 10h30, on va marquer une pause dont je pense, donc j'agis. Vous faites comme Brigitte, Ghislaine et Mireille, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous parler des lieux et sanctuaires Mario que vous connaissez. Pourquoi vous y allez? Qu'est-ce qui vous marque sur place? Est-ce que vous croyez aux apparitions? Ça, c'est intéressant aussi. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook, je pense. Donc, j'agis. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on parle des sanctuaires Mario, des lieux de pèlerinage dédiés à la Vierge Marie, souvent situés à des endroits où des apparitions ou des événements miraculeux aurait eu lieu, ou bien là où des personnes ont ressenti peut-être une présence particulière de Marie. On continue avec nos invités, ce sera après cette chanson de Calogero qui porte bien son nom, Marie, et on vous attend pour discuter avec nous à l'antenne.
Je vous ai vu en Angleterre et entendu dans d'autres airs votre nom souvent volé vers moi. Dans mes 15 août en bord de mer et mes 15 ans dans la lumière sur les écrans blancs des cinémas. Je vous salue où que vous soyez, dans les avenues ou dans les avées, dans ces voix qui lancent des arias. Sur un balcon ou dans le ciel, et cette chanson, c'est mon échelle pour venir vous avouer cette fois.
Et très très belle cette chanson de Calogero que vous venez d'entendre, intitulée très simplement Marie, extrait de son 9e album qui s'appelle Amour.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h pour parler des sanctuaires Mario, Père Alexis Cerquera. Je rappelle que vous êtes chapelain recteur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris et Père Michel Desplanches, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes. Bonjour Bernadette, cette circonstance
bonjour
aussi.
Bonjour Melchior et bonjour les invités. Voilà, donc moi je voulais dire que mon fils a eu un très grave accident en août 2003. Et il a eu la jambe happée dans la défileuse de silotour à maïs. Et bon, les pompiers ont mis 4 heures pour le sortir. Il avait sa médaille de la rue du Bac. Et il m'a dit, tu sais, maman, c'est elle qui m'a sauvée. Il n'y a pas eu d'artère touchée. Bon, il y a eu 12 fractures, mais il m'a dit, tu sais, c'est elle qui m'a sauvée. Voilà. Et depuis, il la garde tout le temps. Moi également, c'est pareil. Voilà. C'est vraiment très, très bien. Et je crois que je le conseille à tous les gens qui veulent y aller. C'est vrai. C'est bien. Et ce week-end, je suis de communion sur Paris. Oui. La communion est le samedi. Mais dimanche, je vais aller à la rue du Bac. Je vais me rendre rue du Bac.
Et dites-moi, Bernadette, est-ce que vous avant ce triste accident de votre fils, qui s'en est sorti, et ça, c'est une vraie joie d'entendre ça, mais est-ce que vous y croyez avant?
Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que si je m'appelle Bernadette, c'est parce que ma maman a eu 5 garçons avant moi. Donc, elle m'a appelée Bernadette et elle m'a emmenée à Lourdes. Et je connaissais la médaille miraculeuse avant, bien sûr.
Mmh. Eh ben, merci beaucoup.
Bien sûr, bien sûr.
Merci voilà. Pour votre témoignage, Bernadette, au 04 72 38 20 23. Père Michel Desplanches, je trouve ça assez impressionnant à quel point un événement peut en créer d'autres, peut créer vraiment peut-être aussi une tradition familiale. Est-ce que c'est le cas, Notre-Dame-du-Lot, des parents qui vont emmener leurs enfants et puis peut-être la tradition va se perpétuer comme ça?
Bien sûr, mais vous savez, c'est le cas pour tout ce qui concerne le domaine de la foi. C'est vraiment dans la tradition, c'est la transmission, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça n'est pas simplement la conservation de la poussière. C'est rendre aujourd'hui actuel ce qui nous a été donné et de génération en génération, que ce soit dans cette vallée ou bien, bien, bien loin, les pèlerins qui viennent ici témoignent auprès de leur famille, bien sûr, de leurs amis, de leurs équipes, de leur communauté, témoignent des grâces qu'ils ont pu recevoir. Donc c'est toujours, c'est saint Paul qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et donc il n'y a rien de plus efficace, si vous voulez, que le témoignage d'une personne qui a vécu une grâce, et comme nous venons de l'entendre de la part de Bernadette. Et c'est vrai que une grâce qui bouleverse une vie, qui nous permet d'approfondir notre confiance dans le Seigneur, et quelque chose qui rejaillit sur toute la famille et tout l'entourage. Mmh.
Pour Notre-Dame-du-Lot, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, très rapidement, les pèlerins ont afflué sur le lieu pour peut-être vivre quelque chose. Maintenant, vous avez combien de pèlerins? Moi, j'avais lu à peu près 200 000 pèlerins par an. Est-ce que ça se tient?
Voilà, c'est ce qu'on compte à peu près. On est en train de retrouver ce niveau-là qui était celui d'avant le Covid, qui a évidemment marqué beaucoup le lieu. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes, dans un coin absolument splendide. J'invite évidemment tous les auditeurs de RCF à faire connaissance avec ce lieu de grâce. Et nous avons une grande hôtellerie, puisque la Sainte Vierge a voulu qu'ici, on puisse résider. Et donc, depuis 360 ans, cette maison a été agrandie. Nous avons 250 chambres, 500 lits qui nous permettent d'accueillir de gros groupes dans des conditions optimales, oui. Mais qui permettent surtout, si vous voulez, aux personnes de vivre une expérience. Il faut un peu de temps. Un sanctuaire où on passe 5 minutes pour brûler un cierge et boire une bière, c'est pas un lieu où on vit quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. Il faut un peu de temps. Il faut savoir se poser. Moi, j'aime bien dire que Notre-Dame-du-Lot, c'est le lieu du temps long. Ce sont les plus longues apparitions au monde reconnues par l'Église. Elles sont à Notre-Dame-du-Lot. Elles sont en France. Donc, sur tous les sanctuaires Mario de la planète, eh bien, 54 ans d'apparition ont marqué ce lieu, imprégné. Et c'est le sanctuaire du temps long. Il faut du temps pour goûter ce qui se passe et combien ce paysage est imprégné de la douceur maternelle de la Vierge.
Anne-Marie, vous êtes à Marseille. Bonjour Anne-Marie.
J'étais à la radio. Voilà. Comme je
Bonjour.
Dis un gros merci, bonjour d'abord, un gros merci à vous tous pour vos émissions.
C'est gentil.
Voilà, alors j'ai fait un petit témoignage à la dame qui m'a reçu au téléphone. Donc, je voulais entendre parler de Fatima et de Notre-Dame de la Salette. Ce sont des lieux d'apparition que j'ai visité à plusieurs, la Salette à plusieurs reprises, Notre-Dame du Lot également. Quant à Fatima, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Un 15 août à Fatima, avec cette foule énorme qui dort même par terre et ces gens qui marchent sur leurs genoux sur ce chemin pierreux, enfin qui va jusqu'à la basilique de Fatima. Donc voilà, il y a ça que je voulais vous dire.
Oui.
Ce sont des impressions qui restent extrêmement vivantes, vivaces. Je voulais aussi vous reparler de Notre-Dame du Lot que je connais bien. Il y a le père René Combal qui est décédé maintenant, qui a été un recteur extraordinaire de modestie et de comment dire, d'intelligence, qui a instruit les manuscrits de Benoît Trancurel pour son procès. C'est pas encore la béatification, je crois, c'est une reconnaissance de bienheureuse, quelque chose comme ça. Donc on avait cette proximité lorsque nous y allions avec ce recteur et Benoît. Et j'ai dit un petit quelque chose à propos de notre de ce qu'il disait à propos de Lourdes, que c'était la résidence principale de la Sainte Vierge, on parle de la France, là, bien sûr, et Notre-Dame-du-Lot, c'était sa maison de campagne.
Ben voilà.
Voilà. Et puis, il y a à Notre-Dame-du-Lot des effluves de roses que certaines personnes perçoivent, pas tout le monde, à certains moments, et peut-être dans des moments de leur vie extrêmement douloureux ou difficiles. Et parfois, on dit que dans la chapelle, il ne faut pas qu'il y ait de fleurs pour ne pas contrarier justement ces manifestations qui peuvent être totalement inopinées. Ou, enfin, bref, tout ceci pour dire qu'il y a des... Suivant les lieux,
oui,
on a des ressentis très différents.
Par exemple, très personnels aussi.
Très personnels aussi. À la Salette, c'est beaucoup plus douloureux. On peut avoir des moments de grandes angoisses à la Salette. Le Lot, c'est très doux, c'est très doux. On dirait qu'on est sous le manteau de la Vierge. Quant à Lourdes, c'est encore autre chose. Alors, ça, c'était très personnel, ce que je vous dis.
C'est une analyse qui est très intéressante et je vous remercie beaucoup, Anne-Marie, d'être venue à l'antenne pour en discuter. Père Michel Desplanches, ça vous parle, ce qu'elle nous a dit, Anne-Marie ?
Mais c'est exactement ça. Le père Combal était un homme, un saint homme d'abord, et un homme extrêmement au fait de toute l'histoire de ce lieu d'apparition, et un témoin majeur vraiment pour les temps d'aujourd'hui. Mmh. En effet, la Salette est un sanctuaire qui est situé pas très loin d'ici, donc à une petite heure de route, mais dans un climat extrêmement différent, beaucoup plus abrupt, beaucoup plus bon, avec un message extrêmement austère. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on fait l'expérience de la douceur du ciel. Il y a quelque chose de très marquant. Alors c'est vrai que Madame disait tout à l'heure que on vit une expérience. Hein. Alors ici, il y a la grâce des parfums, de fait, qui depuis le vivant de Benoît, hein, ça fait 350 ans que. Ici, des pèlerins font cette expérience d'être comme submergés d'odeurs, d'une odeur délicieuse, ce qui était le cas de Benoît, d'ailleurs, dans ces lieux. Et j'en ai eu plusieurs témoignages, déjà, depuis mon arrivée. Et même un monsieur qui me disait, mais écoutez, je sais pas ce qui se passe, ma femme n'a rien senti, mais moi, j'étais submergé de parfum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Vous êtes... Ça ne peut que vous faire du bien. Le Seigneur vous aime, il vous fait un petit clin d'œil, voilà. Et ça ne peut que vous faire du bien. Voilà cette expérience de la douceur sous toutes ses formes est vraiment caractéristique de ce lieu.
Et vous avez vécu peut-être des expériences ?
Alors moi, vous savez, je n'ai jamais eu la grâce des parfums. En revanche, j'ai eu vraiment la grâce de la rencontre. Vous savez, la petite chapelle des apparitions, le petit lieu qui est dans le cœur de la basilique, et s'appelle Bon Rencontre, Rescontre, et en provençal, c'est masculin. Donc, c'est le lieu de la bonne rencontre entre l'ange Gabriel et la Sainte Vierge, à l'origine, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce lieu est un lieu de rencontre, rencontre avec Dieu, rencontre entre pèlerins. Et je vois bien comment ils s'évangélisent l'un l'autre. C'est oui, toujours très beau de voir les dialogues qui s'instaurent. Et je me dis, mais ça, c'est autant de travail en moins. parce qu'ils le font entre eux. Et chacun est un témoin pour l'autre, ce qui est toujours très beau. Et dans les sanctuaires, c'est une des belles grâces, surtout quand on peut y résider, voyez-vous, quelques jours. Et c'est vrai que du coup, les liens s'affermissent. Il y a ici des amitiés qui sont nouées depuis des dizaines d'années. Et on se retrouve à telle période, pour telle session, pour telle proposition, pour telle fête. Et les gens sont heureux de se retrouver en amis, vraiment.
Donc 200 000 pèlerins à peu près hein, pour Notre-Dame du Lot chaque année. Pour vous, Alexis Cerquira, pour la rue du Bac, la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, on est plutôt sur l'ordre du 2 millions de pèlerins. C'est absolument vertigineux. Hein. Ça fait partie des 10 premiers sites culturels les plus visités de Paris.
Oui.
C'est assez impressionnant de savoir ça.
Et oui, mais quand on entend vis-à-vis de l'espace de la chapelle elle-même, il faut comprendre que c'est 2 millions et demi par an. C'est tous les jours, parfois bien avec des groupes, parfois des curieux, des visiteurs, des touristes, des gens qui viennent dans une démarche de pèlerinage et qui viennent de toutes parts du monde. Actuellement, nous recevons beaucoup de Brésiliens. Des groupes qui viennent de Mexique, qui viennent du Japon. C'est un pays qui peut nous surprendre, mais ils ont vraiment une attirance assez forte pour la Vierge Marie, le Japon, les Japonais,
oui.
Des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Et voilà, parce que Paris reste une ville qui attire beaucoup la curiosité des uns et des autres. Mais comme vous le dites, ça reste toujours un lieu et religieux qui attire beaucoup d'attention. Et les gens viennent chercher la paix, la tranquillité, la médaille elle-même, parce qu'elle devient aussi un cadeau, un souvenir du passage des touristes, des pèlerins qui viennent ici dans notre chapelle.
Mais on est sur une
expérience.
Ouais. C'est une expérience qui est différente quand même de Notre-Dame du Lot. Alors, il n'y a pas à comparer, hein, c'est pas l'objectif du tout de cette émission, mais comme l'a dit le père Michel Desplanches, Notre-Dame du Lot, l'idée c'est Notre-Dame du temps long, hein, comme il a dit. À rue du Bac, c'est vraiment de passage. On n'a que quelques minutes pour se rendre dans la chapelle. On peut pas vraiment y rester.
Mais moi, j'aime bien rappeler quand j'ai commencé mon service. Comme chapelain recteur, il y a une dame qui vient me dire bonjour et en même temps me féliciter de mon service, que j'ai assumé à ce moment-là. Et elle m'a dit, père, je vous félicite parce que vous êtes le chapelain recteur du plus grand sanctuaire au monde. Bon, quand on regarde l'architecture,
c'est quand même tout petit.
On dit non.
Ouais.
Donc elle m'a montré la médaille et m'a dit, père, parce que notre sanctuaire, c'est la médaille.
Ah.
Et je trouve que ça, c'est très beau d'exprimer cela. De dire que la médaille est comme en tous les sanctuaires, le message dépasse les lieux lui-même. Et c'est vrai que les gens viennent ici, passent un petit peu du temps, peut-être pas toute la journée, mais le fait que nous sommes à côté du bon marché, et que les gens viennent de toutes parts du monde, et le fait de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, ou participer à l'Eucharistie, ou recevoir le sacrement de la réconciliation, donc ça, pour les gens, ça suffit parce qu'ils disent, je peux y revenir. Ouais. Je reviendrai.
Est-ce que c'est un objet de piété pour vous, cette médaille miraculeuse?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que même la Vierge Marie a dit, ceux qui portent la médaille avec dévotion, c'est ça l'objet de piété, c'est qu'il provoque une dévotion. Les gens recevront des grâces abondantes. Il faut porter la médaille avec dévotion, ça veut dire avec attachement, avec respect, avec ses liens. Qui nous unit au Seigneur et à la Vierge Marie et à la parole de Dieu et qui nous invite à garder cet objet, si on peut dire ainsi. Vraiment, c'est un objet de dévotion, un objet de piété qui dépasse la frontière de simplement un objet tout court.
Cette médaille, où est-ce qu'elle est fabriquée? Parce que, alors, on imagine qu'il y a peut-être une concurrence ou des contrefaçons, mais est-ce qu'elle est toujours fabriquée, alors peut-être dans la chapelle ou pas très loin?
Elle est fabriquée par différents fournisseurs en Italie et en France aussi. Et par ailleurs, partout dans le monde, elle est fabriquée dans différents pays, dans différentes langues, parce que la petite prière au Marie conçu sans péché. Elle est faite dans toutes les langues. Mais ici, il y a, je crois que si je ne me trompe pas très bien, du côté de la Normandie, on a notre fournisseur principal de médailles. Mais on ne la fabrique pas ici dans, dans les lieux. Mais en France, oui, on a plusieurs fournisseurs qui nous font et qui, nous, qui la font, qui la frappent.
Qui la frappent, ouais.
Et après aussi, il y a des bijoutiers. Parce que ce que celles que nous offrons ici à la médaille miraculeuse, c'est des matériaux modestes, en laiton ou en plastique, recouvert un peu d'une couche d'or parfois. Mais ceux qui les font aussi comme un bijou en tant que tel, la font aussi. Donc on n'a pas de. Et c'est vrai que, c'est vrai en parlant de ça, ici dans notre sanctuaire, on ne demande absolument rien en échange de la médaille. Mais par contre, nous recevons beaucoup aussi des plaintes des personnes qui reçoivent la médaille, mais en échange de l'argent.
Ah oui.
Et ça, ça c'est le cas de dire, notre sanctuaire, notre chapelle, nous ne les faisons pas. Mais il y a des associations qui sont plutôt intégristes, désolé d'en parler ainsi, mais qui demandent, qui font un échange d'argent de la médaille. Je pense que Marie, elle n'a jamais demandé ça. Bien sûr, on peut comprendre que pour la frapper, ça demande un
de coût. La main-d'œuvre, oui.
De la main-d'œuvre, exact, et des personnes qui la font. Mais ici, nous, directement, nous ne demandons rien en échange de la médaille. Mais par contre, nous combattons cela, cette contrefaçon, cette utilisation commerciale.
Ah oui, il y en a beaucoup.
De la médaille.
Je vous confirme. Et il y aurait, alors c'est assez impressionnant au niveau des chiffres, hein, à la mort de Catherine Labouré en 1876, on comptait déjà plus d'un milliard de médailles. On peut facilement en 2024 que, on peut facilement imaginer en 2024 que ce nom n'est plus calculable, Alexis Cerqueira.
C'est plus ou moins 50 000 par jour.
Ah oui. Oui, d'accord. En effet, ça
donne, dans notre lieu.
Ça donne un petit ordre de grandeur. 000.
Bon, on n'a jamais chiffré de manière exacte, mais c'est à peu près ça. 5 000, 10 000, 50 000, ça dépend.
Ça dépend du
aussi
jour.
Des groupes qui viennent, tout à fait. Des visiteurs, des pèlerins.
Eh ben écoutez, merci vraiment à tous les deux, Père Alexis Cerqueira et Père Michel Desplanches, d'avoir été avec nous pour nous parler de vos lieux. Eh ben, on invite tout le monde à s'y rendre, hein, pour peut-être par curiosité, par conviction, si c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci, Père Michel Desplanches. Peut-être un mot pour... Non, c'est un peu compliqué comme exercice. Pour résumer, Notre-Dame du Lot, un mot.
Notre-Dame du Lot, c'est la rencontre, c'est la famille, c'est la chaleur de la proximité, la douceur du ciel qui vient à nous. Moi, j'aime bien dire que à Notre-Dame du Lot, le ciel est proche. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est à 900 mètres, mais le ciel est proche parce que 54 ans d'apparition, ça imprègne un paysage. J'invite évidemment tous les pèlerins à venir ici découvrir ce lieu. Dans l'été, nous avons le festival marial, de belles propositions familiales. Et à venir vraiment bénéficier des grâces du lieu.
C'était pas un mot, c'était un paragraphe, mais j'accepte quand même. Merci beaucoup, Père Michel Desplanches. Et vous, Alexis Cerqueira, un mot pour... peut-être pour résumer, c'est pas le bon terme, mais la chapelle, la rue du Bac, un mot.
Donc, j'utilise le mot que Marie a donné à Catherine. Venez au pied de cet hôtel, les grâces seront données en abondance. Venez porter la médaille, parce que celui qui porte la médaille avec dévotion recevra des grâces. Et je pense que nous sommes témoins. Et je suis très, 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 très reconnaissant de toutes les personnes qui nous partagent et les grâces que les gens ont reçues. Ici, on n'appelle pas des miracles. Nous parlons des grâces.
Merci.
Je pense que c'est plus correct pour nous. Venez ici. La porte est toujours ouverte.
La porte est ouverte. Merci beaucoup à tous les deux, Père Michel Desplanches et Père Alexis Cerqueira. On mettra les liens de vos lieux sur notre site rcf.fr. Il est 10h54, c'est presque la fin de cette émission. Je dis bien presque, parce qu'on va tout de suite accueillir notre chroniqueur. Et nous retrouvons Thomas Villemontet, maître de conférence en psychologie et membre fondateur de l'association Mille et un mots. Bonjour Thomas.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Et ce matin, avec la fondation, avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée, dans votre chronique, vous nous parlez d'une petite révolution qui touche actuellement le monde de l'éducation.
Effectivement, nos auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais le domaine de l'éducation est chamboulé ces dernières années par un mouvement d'ampleur. qui concerne au premier rang le travail des enseignants. Et ce mouvement de fond, c'est celui de l'apprentissage des compétences psychosociales.
Compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, les compétences psychosociales sont des compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles que l'on peut apprendre dès la petite enfance et dont les recherches scientifiques ont pu montrer qu'elles sont essentielles pour s'épanouir tout au long de sa vie personnelle et aussi professionnelle. Aux États-Unis, une étude a par exemple montré que les élèves qui ont de solides compétences psychosociales ont deux fois plus de chances d'obtenir un diplôme universitaire et près de 50% de chances de plus d'occuper un emploi à temps plein à l'âge de 25 ans.
Et concrètement, en quoi elles consistent, ces compétences ?
Alors, elles peuvent être découpées en trois catégories. Dans les compétences cognitives, on retrouve des compétences comme savoir porter un regard positif sur soi-même, savoir prendre des décisions responsables ou encore savoir contrôler ses impulsions. Dans les compétences émotionnelles, on retrouve la capacité à identifier et à gérer ses émotions, notamment les émotions difficiles et son stress. Enfin, dans les compétences relationnelles, on retrouve la capacité à faire preuve d'empathie, à résoudre les conflits de manière constructive ou encore à communiquer avec assurance ce dont nous avons besoin. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point tout cela est important en classe et dans la vie.
Et ça veut dire que ces compétences peuvent s'apprendre ?
Oui, il est possible pour les éducateurs qui entourent les enfants de les enseigner à travers leur propre posture, mais aussi grâce aux activités qu'ils proposent. Et cela peut commencer dès la crèche. Par exemple, les petits-enfants peuvent apprendre les noms des émotions, ils peuvent apprendre à s'entraider, à dire stop lorsqu'un autre enfant leur fait quelque chose qui leur déplaît, ou encore dès la maternelle à utiliser leur respiration pour s'apaiser. Les recherches montrent que cet apprentissage précoce fait une différence. Les enfants qui apprennent ces compétences obtiennent de meilleurs résultats scolaires, ont des comportements plus positifs avec les autres élèves, ont aussi souvent plus d'amis, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de se sentir bien à l'école, de s'investir et de réussir, et qu'ils risquent donc moins d'être mis à l'écart ou de subir du harcèlement.
Et ces compétences sont enseignées actuellement à l'école française, Thomas ?
Alors nous avions pris du retard dans ce domaine qui va heureusement bientôt être comblé. En 2022, une instruction interministérielle a été signée pour que les différents ministères se coordonnent pour déployer leur enseignement dans les différents espaces où grandissent les enfants. Et en ce qui concerne l'école plus spécifiquement, elles seront enseignées à partir de septembre 2025 et considérées comme faisant partie des quatre grandes compétences scolaires dans le cadre du choc des savoirs voulu par Gabriel Attal, un aspect de sa réforme qui fera, nous l'espérons, consensus, car il s'agit d'apprentissages essentiels qui manquaient jusque-là aux jeunes élèves français.
Merci beaucoup Thomas Villemontet d'en avoir discuté avec nous. C'était très important et rendez-vous sur votre site internet milleunmot.org pour en savoir un petit peu plus et on vous retrouve très prochainement. C'est déjà la fin de Je pense donc j'agis. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos très nombreux appels, vos messages ce matin au standard. Merci encore au Père Michel Desplanches, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot, à retrouver sur le site sanctuaire-notre-dame-du-lot.com. Et merci également au Père Alexis Cerquera, chapelain, recteur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris, à retrouver sur le site internet chapelle-notre-dame-de-la-médaille-miraculeuse.com, tout simplement. Et puis bien sûr, à vous de vous rendre dans ces beaux lieux. Merci à Thomas, non pas du tout, à Antoine, pardon, à la réalisation et également à Pierre. Je vous retrouve demain avec joie de 9h à 10h exceptionnellement avec Anne Kerléo. Ah non, de 9h à 11h, je dis n'importe quoi, je suis désolé, je suis un peu fatigué décidément, alors que c'est lundi, normalement on est plutôt en forme. Et voilà, on se retrouve demain pour Je pense donc j'agis, tout va bien, de 9h à 11h. Bonne journée à tous.